Bonjour, ici Félix Morin. Pour ce dernier épisode de 2025, nous avons la chance d'accueillir Mustapha Fahmy. Mustapha est professeur de littérature anglaise à l'Université du Québec à Chicoutimi. Il est aussi spécialiste de Shakespeare. Nous sommes très heureux et choyés d'avoir pu enregistrer cet épisode devant public le 16 août dernier au Festival des Traditions du Monde de Sherbrooke. Bonne écoute. Bonjour Mustapha.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Bonjour. Tu es présentement au Festival des Traditions du Monde avec nous. Je te remercie. Pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, tu es né à Casablanca, tu es écrivain, essayiste. En tout cas, moi, je sais que tu es aussi poète, on m'a dit. Mais je dois l'avouer, soyons un peu de probité, je n'ai pas eu encore la chance de lire ta poésie.
Mais c'est vieux et c'est plus disponible sur le marché.
Oh! Est-ce que tu en es heureux?
De quoi?
Et que ça soit plus disponible?
Oui.
T'es professeur.
Enfin, quelques-uns.
Il y a des livres, des fois, qu'on est heureux qu'ils disparaissent. T'es professeur de littérature anglaise à l'Université du Québec à Chicoutimi. T'es spécialiste de l'œuvre de Shakespeare, dans laquelle, justement, on va s'amuser un petit peu parce que c'est le fil d'Ariane qui traverse l'entièreté des trois livres qu'on va parler aujourd'hui. Justement, les trois livres autour duquel j'ai structuré cet entretien, c'est trois livres publiés à la Peuplade. C'est La leçon de Rosaline, La promesse de Juliette et La beauté de Cléopâtre. Les personnes qui aiment Shakespeare reconnaissent déjà peut-être certains personnages à l'intérieur de ça. Mais avant de commencer à rentrer dans tes livres, le thème de la programmation cette année, c'est la juste place. Je me demandais justement, après avoir... Et c'est un thème, en fait, qui est venu de ma lecture de La beauté de Cléopâtre. C'est quelque chose qui est apparu à travers ma lecture. Je pense que j'ai trouvé mon thème à travers ce livre-là. Donc, je me demandais, est-ce que la question de la juste place est une question shakespearienne?
Bonjour tout le monde et merci d'être là. C'est une question shakespearienne, c'est une question de la vie, mais c'est une question qu'on trouve déjà chez Aristote et on la trouve aussi chez Shakespeare et on la trouve dans la vie. Alors, par exemple, pour Aristote, si je ne sais pas quoi faire, si j'ai une décision à prendre, je dois prendre une action et je ne sais pas quoi faire, je dois identifier l'extrême droite et je dois identifier l'extrême gauche, et là, je choisis le milieu. Parce que pour Aristote, la vertu ultime, le bien, c'est un juste milieu entre deux extrêmes. Alors, par exemple, le courage est une valeur universelle, mais le courage, si je le pousse à l'extrême, il devient de la témérité. Et la témérité n'est pas une valeur, la témérité n'est pas une vertu, c'est un vice. Si je le pousse à l'autre côté, c'est-à-dire je deviens prudent et je pousse la prudence à l'extrême, elle devient de la lâcheté. Et la lâcheté n'est pas une vertu, c'est un vice. Alors le courage est une position entre la témérité et la lâcheté. Alors, le juste milieu, oui, c'est un thème très Shakespeare, surtout, on le trouve dans les pièces historiques. Vraiment, vraiment, oui.
Justement, parce que Shakespeare a dû voir à travers l'histoire, justement, les moments de courage chez certains personnages ou de lâcheté. Il y a des grands personnages chez Shakespeare, justement, qui représentent bien les différents pôles autour desquels tout tourne. À travers ça, il y a la question aussi, tu en parles dans la leçon de Rosaline, tu commences avec ça. Je me demandais, parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez important si on veut parler justement de la juste place, c'est d'une certaine manière, qu'est-ce que pour toi qui caractérise notre devoir comme être humain?
Oui. Alors, voilà. Écoutez, une des choses qui nous distingue des autres êtres vivants, selon Heidegger, entre autres, c'est notre capacité de créer des mondes et d'ouvrir des possibilités aux autres. Par exemple, le monde du sport ou le monde de la musique. C'est-à-dire, la personne qui a inventé la musique a ouvert un monde qui a permis à des gens d'exprimer un talent. Et à l'intérieur de ce monde de la musique, quelqu'un a créé, inventé la musique classique, par exemple. Et à l'intérieur du monde de la musique classique, des gens qui auraient pu devenir des criminels, par exemple, sont devenus des génies. Alors, Mozart n'aurait jamais pu exister s'il n'y avait pas le monde de la musique classique. Vers la fin du 19e siècle, quelqu'un a inventé le jazz dans un quartier pauvre de New Orleans. Et le gars qui a inventé le jazz, c'est quelqu'un qui s'appelle Bolden. Et il jouait dans son appartement dans le French Corner à New Orleans, qui est un vraiment quartier pauvre, plein de prostituées. Et il y avait un jeune noir qui distribuait le charbon dans les maisons des prostituées. Il passait devant la maison de Bolden et il entendait cette musique-là, le jazz, une musique qui est complètement différente, originale et vivante. Et un jour, ce jeune-là, il demande à un client de lui faire une avance de $5 pour acheter une trompette. Et il prend cette trompette et il commence à jouer. Et il devient le plus grand musicien, à mon avis, du XXe siècle, qui a influencé tous les genres de musique, toutes les façons de chanter, de jouer, tous les instruments. C'est Louis Armstrong. Alors, l'être humain a cette capacité d'ouvrir des mondes. Et en ouvrant un monde, on ouvre des possibilités à d'autres personnes de se révéler et de révéler leurs talents. Alors, puisque nous sommes les seuls êtres ayant cette possibilité, alors ça devient, par la force des choses, une obligation morale. C'est-à-dire, en tant qu'être humain, j'ai une obligation morale d'ouvrir des possibilités pour les autres. Et comment je le fais? En détectant le talent chez quelqu'un. Quand je rencontre une personne pour la première fois, j'essaie toujours de détecter un talent chez cette personne. Et mon obligation humaine, mon obligation d'être humain, c'est d'aider cette personne à sortir ce talent-là. Ça devient une seconde nature. Bon, plus dans mon métier, qui est celui de professeur, c'est facile parce qu'on a plein d'étudiants et plein de talents, mais nous avons cette obligation. Vraiment cette responsabilité humaine d'aller chercher ce talent et d'essayer de l'arroser. Parce que comme je dis dans le texte, finalement, il n'y a que deux catégories de gens. Il y a ceux qui arrosent et qui regardent pousser et fleurir, et il y a ceux qui étouffent et regardent mourir.
Est-ce que ce devoir-là que tu fais, justement, de devoir aider les autres à trouver un talent, influence ta manière d'écrire dans le sens? Est-ce que tu écris avec cette préoccupation-là en tête? Et si oui, comment ça se traduit, justement, dans tes livres?
Ah, mais définitivement. Parce que ces livres-là, moi, après avoir passé plus de 20 ans à écrire en anglais, je décide d'écrire en français. Je décide d'écrire en français des essais philosophiques, où je pars de textes littéraires, notamment des textes de Shakespeare, pour développer des réflexions sur l'amour, sur la reconnaissance, sur le devoir, sur plein de choses qui nous intéressent aujourd'hui. Mais je le fais d'une façon extrêmement simple, très 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 simple, et libre de tout jargon académique. Mais pourquoi je le fais comme ça? Alors que j'ai passé ma carrière de professeur à parler avec un jargon vraiment que nous comprenons entre nous, les professeurs dans les colloques, mais qui pousse les étudiants loin des cours. Alors, je me dis, mais pourquoi je le fais? Parce que je crois qu'un professeur d'université a trois obligations. La première obligation est notre obligation envers le savoir. Parce que les gens qui ont créé l'université, ils ne l'ont pas fait dans le but de former de la main-d'œuvre. Ça, c'est une notion nouvelle. Non, ils l'ont fait parce qu'ils avaient peur que le savoir se perde. Il y avait un savoir philosophique, scientifique, religieux et tout ça. Et on avait peur que ce savoir se perde. Alors, on a créé des institutions et on s'est servi des étudiants, hein. Les étudiants n'étaient pas le but de l'université au début. On s'est servi des étudiants pour préserver le savoir. Alors, en tant que professeur d'université, ma première obligation est envers le savoir.
Donc, ton premier devoir, c'est d'utiliser tes étudiants.
Absolument. Mon deuxième devoir, ma deuxième obligation est envers l'étudiant. Mais l'étudiant, non pas comme un client qui paie pour une formation qui le prépare pour le marché. Non, ça ne m'intéresse pas. Non, mon obligation est envers l'étudiant en tant que personne à la recherche d'un savoir capable de le mener à la vie bonne, c'est-à-dire au bonheur. Maintenant, il y a une troisième obligation. On l'oublie malheureusement. C'est mon obligation envers la communauté, envers la société. Alors moi, je crois qu'un professeur, vers la fin de sa carrière, parce que moi, je prends ma retraite le 1er juin, quand tu arrives à la fin de ta carrière, quand tu auras déjà contribuer au savoir et à la science, et tu es établi dans ton domaine. Je crois que chaque professeur doit mettre son savoir au service de la communauté. En écrivant des livres pour le public, généralement. Et c'est dans cet esprit que j'ai décidé d'écrire, et d'écrire en français, parce que mon obligation est envers la société québécoise, qui est francophone. Et surtout, c'est tout, tu as remarqué dans les livres, les trois, je ne mentionne un concept philosophique ou un philosophe sans l'expliquer, d'une façon extrêmement simple.
Absolument.
Très, très, très simple. Et c'est difficile.
Oui, il y a même
très, très difficile d'expliquer Heidegger ou Nietzsche ou Spinoza d'une façon simple, ou Kant, par exemple. C'est très, très difficile. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et de révisions pour le faire. Et parce que moi, je crois aussi que la maturité de l'écrivain, enfin, la maturité de l'humain en général, se fait vers la simplicité et non pas vers la complexité. Pour moi, quelqu'un qui devient de plus en plus compliqué avec le temps, c'est quelqu'un qui se développe dans le mauvais sens.
Pourquoi c'est suspect, la complexité, chez
pardon,
une personne?
Pardon?
Pourquoi c'est suspect?
Je le dis dans un aphorisme, je ne sais pas dans quel livre, je dis la simplicité a deux sœurs, la grâce et la dignité.
C'est dans la leçon de Rosaline.
Ah ben merci. Alors, ce qui est simple est souvent digne et gracieux. Et ce qui manque de simplicité manque souvent de dignité et de grâce.
Tu disais justement tu parlais justement de cette importance-là de justement ramener à la société ton savoir. Ça, pour toi, travailler la forme de l'essai, ça répond à quel besoin pour notre société?
Ben justement, ce besoin d'établir un dialogue un peu plus direct qu'un dialogue qu'on peut établir à travers la poésie ou le roman. C'est-à-dire de parler un peu directement, même s'il y a un peu de poésie dans ces livres, des métaphores, des aphorismes, mais de parler plus directement.
Plus directement, tu as dit que c'est des essais philosophiques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de philosophie qui est mobilisée à travers tes livres, mais il y a aussi beaucoup de littérature. Ouais. J'ai envie d'inverser la question qu'on fait souvent par rapport à ça. En gros, qu'est-ce que la littérature a apporté que la philosophie ne pourra pas vraiment, en fait?
OK. C'est une excellente question. Nietzsche dit que la philosophie est importante parce qu'elle nuit à la bêtise. La philosophie nuit à la bêtise. Non pas dans le sens de mettre fin à la bêtise, non, rien ne peut mettre fin à la bêtise. Jamais, jamais. La bêtise est trop forte. Alors, la philosophie nuit à la bêtise dans le sens où elle force la bêtise à regarder son visage dans le miroir et à avoir honte d'elle-même. C'est ça que la philosophie fait. Maintenant, la littérature. Elle est pertinente, la littérature, mais sa pertinence est différente. Quelle est la pertinence de la littérature? La littérature est pertinente dans le sens où elle nous donne accès à des perspectives différentes et à des sentiments qu'on n'éprouve pas nécessairement. Imaginez si on n'avait pas la littérature, est-ce qu'on aurait une idée des sentiments qu'on n'éprouve pas? Supposons que, par exemple, je ne suis pas jaloux. Enfin, je le suis un peu, mais supposons que je ne suis pas jaloux du tout et je vis avec une personne jalouse. Alors, cette personne jalouse, elle me gâche la vie. Et je ne comprends pas pourquoi elle est jalouse. Elle m'emmerde avec sa jalousie. Je ne la comprends pas, mais pourquoi elle est jalouse tout le temps? Et là, je lis Othello de Shakespeare ou The Winter's Tale. Et qu'est-ce qu'il fait Shakespeare? Il me donne accès direct à la psychologie de la personne jalouse. Et là, je vois ce que la personne jalouse éprouve comme sentiment et comment la personne jalouse souffre. Alors, à la fin, quand je ferme Othello, est-ce que je vais devenir jaloux? Mais pas du tout. Mais j'aurai de la sympathie pour les personnes jalouses parce qu'être jaloux est dur pour la personne jalouse. Alors, qu'est-ce qu'elle fait la littérature? Elle m'aide à multiplier mes perspectives sur le monde. Elle me donne accès à des sentiments que je n'éprouve pas. Et en faisant cela, elle me rend plus humain. Parce que maintenant, au lieu de condamner la jalousie, ben, j'ai un peu plus de sympathie et de compréhension envers la personne jalouse. C'est ça que la littérature m'offre.
Souvent, quand on va opposer la philosophie puis la littérature, on va opposer en fait la vérité, la recherche de la vérité, avec quelque chose qui est devenu un peu comme synonyme du faux, c'est-à-dire la fiction. OK, en quoi, en fait, la fiction peut nourrir peut-être la vérité? Est-ce que c'est encore par un exercice d'empathie ou quelque chose en plus? Est-ce qu'il y a une valeur, je vais utiliser un grand mot, épistémique à la fiction? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une valeur de vérité à la fiction?
Définitivement. Quand on dit vérité en français ou truth en anglais, ce sont des traductions d'un mot grec qui est aletheia. Ça, c'est le mot grec, aletheia. A, en grec, veut dire sans. Comme amoral, c'est sans morale, ou anorexia, sans appétit. Alors, aletheia veut dire dévoilement. Alors, le sens du mot vérité, l'original, c'est dévoilement. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, la vérité? Elle dévoile l'être des choses. Et montre-moi un seul genre qui dévoile l'être des choses mieux que la littérature. C'est-à-dire que lorsque, par exemple, OK, maintenant je pense à ma retraite parce que je pars à la retraite le 1er juin, alors je commence à parler, passer à la retraite. Et quand on arrive à la retraite, et c'est une situation que tout le monde éprouve. Commence à se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai fait dans ma carrière? Qu'est-ce que j'ai fait de bien? Qu'est-ce que j'aurais fait de mieux? Et maintenant, je vais partir et ils vont me remplacer avec quelqu'un qui va enseigner Shakespeare et la littérature anglaise. Et cette nouvelle personne va enseigner à sa façon. Comment elle va faire? Est-ce qu'elle va nier tout ce que j'ai fait? On se pose des questions. Je vais partir et quelqu'un d'autre va venir après. C'est une situation où les millions de gens chaque année se retrouvent, n'est-ce pas? Mais quand je lis Aragon qui parle d'un départ d'une autre nature, et qu'est-ce qu'il dit Aragon? C'est une chose étrange à la fin que le monde. Un jour, je m'en irai sans en avoir tout dit. Ces moments de bonheur, ces midis d'incendie, la nuit immense et noire aux déchirures blondes. Rien n'est si précieux peut-être qu'on le croit. D'autres viennent. Ils ont le cœur que j'ai moi-même. Ils savent toucher l'herbe et dire « je vous aime » et rêver dans le soir où s'éteignent les voix. Il y aura toujours un couple frémissant pour qui ce matin-là sera l'aube première. Il y aura toujours l'eau, le vent, la lumière. Rien ne passe après tout si ce n'est le passant. Qu'est-ce qu'il fait ici, Aragon? Il dévoile la vérité de ce sentiment que j'ai, moi, que je n'ai pas pu exprimé avec des mots simples. Alors, lorsqu'on dit que la vérité est dans la science, mais non, la vérité n'est pas dans la science. La science, elle se développe d'une erreur à une erreur. La vérité est dans la littérature et l'art.
Comment la science développe? Parce qu'il faut quand même qu'on en parle. Comment la science peut passer d'une erreur à une autre?
Parce qu'on fait une expérience et on dit, ben voilà, c'est comme ça. Ça, c'est le monde, je ne sais pas, le Big Bang, je ne sais pas, c'est comme ça. Après, on découvre que c'était une erreur. On apprend de cette erreur et on passe à une autre. La science se développe. Ce n'est pas une critique de la science, non. Mais elle se développe d'une erreur à une autre. Alors que Léo Tolstoï, quand il a écrit Anna Karénine, il n'y a personne qui peut améliorer Anna Karénine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut améliorer la 40e de Beethoven, de la 40e de Mozart? Non.
Tu parles beaucoup dans la leçon de Rosaline, justement, de l'importance d'habiter le monde. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans ce livre-là, mais tu as une conception assez particulière, justement, de ce que veut dire habiter. Qu'est-ce qu'habiter veut dire pour toi?
Ben, habiter le monde. Et je parle beaucoup de Heidegger quand je parle d'habitation. Habiter le monde, c'est surtout, on vit aujourd'hui une crise climatique avec des changements climatiques et tout ça. Et on parle beaucoup d'habitation. Mais c'est quoi habiter le monde? Habiter le monde, c'est pas résider quelque part. Non. Habiter le monde, c'est s'ouvrir à l'espace dans une relation de devoir et de réciprocité. C'est-à-dire que j'habite le monde lorsque je permets au monde de m'habiter. Je ne peux pas y habiter le monde si je ne permets pas au monde d'habiter. Et je n'habite que les lieux qui m'habitent. Généralement, on habite combien ? On peut changer plusieurs maisons dans notre vie, des appartements et tout ça, mais on habite souvent une seule maison. C'est laquelle ? La maison de nos parents, parce que c'est la seule qui nous habite. Alors, habiter le monde, c'est permettre au monde de nous habiter. Mais Heidegger dit, on ne peut habiter que poétiquement. Et c'est ça que je trouve merveilleux. Et c'est pour ça que je trouve que la poésie est essentielle, et surtout aujourd'hui. C'est quoi habiter le monde poétiquement ? C'est développer une façon de voir les choses au lieu de les regarder. Quelle est la différence entre regarder et voir ? Si vous permettez, je donne un exemple de Shakespeare. Dans le roi Lear de Shakespeare, il y a bien sûr l'histoire principale du roi Lear avec ses trois filles, mais il y a une histoire secondaire qui va en parallèle, c'est l'histoire de Gloucester, un noble, avec ses deux garçons, deux fils. Alors Gloucester, c'est un noble, bon, loyal, c'est quelqu'un de très très bien, et il a deux garçons. Il a Edgar, l'aîné, qui, comme lui, il est bon, loyal, mais un peu naïf, comme son père. Et il a un deuxième, un vilain, méchant, froid, calculateur, qui s'appelle Edmund. Et comme cela peut arriver souvent dans la vie, le vilain Edmund va manipuler son père contre le bon. Et le bon tombe dans la piège, le père tombe dans le piège et il déshérite le bon Edgar, il le bannit et il donne tout au méchant, au manipulateur. Comme si c'était pas assez, le vilain, il trahit son père et il le livre à ses ennemis. Et la punition qu'il reçoit pour sa trahison, c'est une des scènes les plus effrayantes dans le théâtre de Shakespeare, c'est qu'on lui enlève les yeux sur scène. Bon, c'est juste des théâtres, mais c'est quand même... C'est ça sa punition. Gloucester, on lui enlève les yeux. Mais alors qu'il crie encore de douleur, il se rend compte de son erreur et il dit « Oh, my folly, then my son Edgar was abused. Oh, que je suis sot, que je suis stupide, mon fils Edgar a donc été calomnié. » Ce qui est extraordinaire dans cette scène, c'est que Gloucester voit clair pour la première fois de sa vie quand il perd ses yeux. Après ça, bien sûr, on va le jeter dans la rue comme un chien, il part comme ça sans ses yeux. Et là, un de ses anciens domestiques, il vient à sa rescousse, il lui dit « Mais monseigneur, où est-ce que vous allez comme ça ?» Et Gloucester lui dit « Non, allez-vous-en, vous ne pouvez rien faire pour moi. En revanche, si on vous attrape, on va vous punir. Allez-vous-en. » Le domestique, il dit mais hélas, monseigneur, mais je ne peux pas vous laisser. Sans vos yeux, vous irez nulle part. » Et la réponse de Gloucester, c'est une réponse qui me brise le cœur à chaque fois que je lis cette pièce. Il lui dit « I have no way, therefore want no eyes. I stumbled when I saw. » Je n'ai pas de chemin, donc je n'ai pas besoin de mes yeux. Je trébuchais quand je voyais. Qu'est-ce qu'il veut dire Shakespeare ici ? Shakespeare veut dire ici que non seulement nous ne voyons pas avec nos yeux, mais en fait, ce sont nos yeux qui nous empêchent de voir. Pourquoi ? Parce qu'on dépend trop de nos yeux pour voir, alors que les yeux ne sont pas faits pour voir. Ce n'est pas ça le rôle. Le rôle des yeux, c'est de nous signaler l'existence physique des choses autour de nous. Pour voir, ça prend autre chose. Plus tard dans la pièce, le roi Lear lui dit « Mais comment tu vois ton chemin ? Comment tu vois le monde ?» Il lui dit « I see it feelingly. » Je le vois avec mes sentiments. C'est-à-dire qu'on regarde avec les yeux et on voit avec le cœur. Maintenant, ce qu'il faut développer dans la vie, c'est la capacité de voir. Là, parce que lorsqu'on regarde la chose, on prend conscience de son existence physique dans l'espace. Lorsqu'on voit la chose, on prend conscience de son être. Alors, si on veut habiter le monde, il faut qu'on développe la capacité de voir les choses. Alors, comment on fait pour voir les choses? On les sort de leur contexte de malléabilité et on les traite comme des choses existant pour elles-mêmes. C'est-à-dire, il faut cesser de voir les choses comme des outils et les personnes aussi. On a développé cette habitude de voir les choses, les personnes aussi, en termes de leur utilité. Ah, lui, c'est un ami très, 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 très serviable. Je l'aime bien parce qu'à chaque fois que j'ai besoin d'un problème, mais ce n'est pas de l'amitié, ça, c'est du profitage. Ce n'est pas ça, l'amitié. Non, il faut apprécier la personne pour ses qualités morales. Il faut cesser de prendre les personnes et les choses comme des outils, des instruments, et commencer à les traiter comme des fins. Chaque chose, vraiment, chaque chose, chaque personne, chaque situation. Et c'est comme ça qu'on peut habiter le monde. Parce qu'on n'habite pas juste le monde, on habite le monde et les choses. Et quand je parle de choses, une table que j'hérite de mon père ou de mon grand-père, et je prends soin de cette table, elle a un être, cette table. Alors que celui-là, le iPhone, je ne sais pas, 10 ou 11 ou 12, je ne sais pas, il va être dans un an maximum, il va disparaître. Il n'a aucune existence dans le temps. Alors, les choses qu'on change rapidement sont dangereuses parce qu'ils nous empêchent de rendre le monde justement habitable et de rendre le temps habitable. Bon, c'est une longue discussion, mais je crois que l'idée...
Non, mais c'est parfait. Est-ce que cette manière-là, pour toi, justement, de voir l'autre réellement, c'est ce qui nous manque peut-être dans ce qu'on nomme de manière peut-être un petit peu trop large et pas assez conceptualisée, la reconnaissance? Est-ce qu'on a besoin de voir réellement l'autre comme ça pour réellement le reconnaître? Et si ce n'est pas le cas, et que justement, on les voit peut-être plus comme des utilités, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait pas de la reconnaissance.
Oh, mais tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je parle beaucoup de reconnaissance dans la leçon de Rosaline, parce que c'est un mot que tout le monde utilise. Quand j'étais vice-recteur de l'Université du Québec à Chicoutimi, et j'ai établi le plan stratégique pour 5 ans, et parmi les valeurs, il y avait la reconnaissance, mais je me suis trompé parce que je ne l'ai pas bien expliqué. Alors, tout le monde a dit, oui, on adhère à la reconnaissance, mais moi, je travaille de 7 heures, alors j'ai besoin de reconnaissance. Mais la reconnaissance, c'est pas de la rémunération. Non, ça, c'est un droit. La rémunération, c'est un droit. Tu travailles, tu as droit à être payé pour ça. La reconnaissance, c'est pas une récompense, c'est pas un cadeau, mais pas du tout. Non, c'est pas ça. La reconnaissance, c'est une présence complète et sans masque devant les problèmes des autres. Reconnaître une personne ou une communauté ou un peuple, ce n'est pas accepter son existence, encore moins le tolérer. Non, reconnaître quelqu'un, c'est reconnaître sa peine et sa douleur. Si tu ne reconnais pas la peine, la douleur, les problèmes de l'autre, ben, tu ne l'as jamais reconnu. Tu l'as juste accepté. Alors, quand on parle, par exemple, reconnaître l'existence de ce peuple, X ou Y, OK, sur des papiers, mais ce n'est pas ça la reconnaissance. Si tu veux reconnaître ce peuple, va reconnaître sa douleur, sa peine, sa souffrance.
Tu dis justement avec le roi Lear, la vraie reconnaissance est une mise à nu devant la souffrance des autres. Ce qui est une magnifique manière de dire les choses. Justement, tu fais une distinction aussi dans ce livre-là entre la tolérance et la curiosité. C'est quoi la différence pour toi entre les deux?
Bon. Par exemple, quelqu'un qui dit « Moi, je suis ouvert, je suis une personne ouverte. » à la différence et tout ça. Je mange le couscous ou le mexicain le dimanche, samedi. Ça, c'est de la curiosité. C'est très, très bien, mais ce n'est pas une ouverture.
C'est ça. C'est pas une ouverture, non. C'est pas de la curiosité.
Et c'est, non, c'est pas, c'est juste, enfin, c'est juste un peu de curiosité, c'est ça. Mais l'ouverture, c'est beaucoup plus profond. L'ouverture, c'est un dialogue. C'est un dialogue avec l'autre. Et un dialogue, c'est quoi? Parce que ça prend une reconnaissance pour passer au dialogue. Le dialogue, c'est quoi? C'est pas un échange d'idées. Non, c'est pas ça. Le dialogue, c'est pas un échange de revendications. C'est pas ça du tout. Le dialogue, c'est quoi? C'est une ouverture mutuelle entre deux consciences. Je ne peux établir un dialogue avec une personne que lorsque je prends conscience de sa position, de sa singularité et ses problèmes. On revient toujours à la même chose.
On n'est pas capable de voir les problèmes. Ou du moins de vouloir vraiment les affronter. L'idée, une des grandes instances qui est supposée nous permettre justement de voir les problèmes et d'en discuter, c'est supposé être l'éducation et de trouver même des solutions par rapport à ça. Je me demandais, parce que, ça serait quoi pour toi une éducation à la juste place? Dans le sens que, parce que c'est une préoccupation que tu as justement dans la question de Rosaline, oui. Question éducative. Ça serait quoi une éducation, je dirais, juste pour toi, qui formerait réellement les citoyens dont on aurait peut-être de besoin?
Tout à l'heure, j'ai parlé de l'origine du mot vérité en grec, aletheia, mais l'éducation, le mot éducation vient du latin exducere, qui veut dire sortir de soi-même. C'est-à-dire, s'éduquer, c'est d'abord sortir de soi-même et aller vers l'autre. Alors, il faut revenir à ça. L'autre chose, c'est que le système d'éducation que nous avons aujourd'hui, dans nos écoles, les universités, nous ne l'avons pas inventé. Ce sont les Grecs qui l'ont inventé. C'est-à-dire, ça remonte à l'académie de Platon et au lycée d'Aristote. Alors, moi, ce que je propose, d'ailleurs, dans ce livre, et même un texte qui a été repris en France par des manuels d'éducation et tout ça, ce que je propose, c'est de revenir vers les Grecs, revenir aux Grecs, pour voir qu'est-ce qu'ils voulaient dire par éducation. Parce que ce sont eux qui l'ont inventé. C'est leur système. Nous, on a adopté ce système. Alors, pour l'éducation, le but de l'éducation, selon Aristote, c'est de nous permettre de faire un meilleur usage. Écoutez bien. Le but de l'éducation, c'est de nous permettre de faire un meilleur usage de notre temps libre.
Aujourd'hui, le monde cherche leur temps libre de plus en plus.
Exactement. C'est-à-dire, le but de l'éducation, ce n'est pas de chercher un travail, de travailler comme un dingue pour avoir 3 semaines ou 4 à la fin de l'année. Ça, c'est terrible. Pourquoi c'est terrible? C'est inhumain. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on définit le repos comme un non-travail. Chez les Grecs, c'était le contraire. On va à l'école pour apprendre à profiter de notre repos. Alors, le repos, il existe pour lui-même et le travail pour lui-même. Mais quand tu travailles une année pour prendre un mois pour recharger, comme on dit, pour faire le plein ou je ne sais pas quoi, ça veut dire que tu ne vis pas le repos comme repos existant pour soi-même. Tu le vis comme un non-travail. Et même à la fin de la semaine, on prend 2 jours, on passe un jour à faire le ménage ou
les commissions.
Et les commissions et tout ça. Et le lendemain, on se prépare déjà pour la semaine, mais on n'a pas du tout pris de repos parce que ce qu'on appelle le repos, on le pense en fonction du travail. Ce n'est pas un repos, c'est un non-travail. Chez les Grecs, c'était le contraire. C'était le travail qui était pensé en fonction du repos. D'ailleurs, le mot travail, il vient du latin tripalium, qui veut dire instrument de torture.
C'est pour ça que les personnes en retraite sont toutes libérées.
Ah oui. Tripalium, ça veut dire instrument de torture. C'est ça le travail. D'ailleurs, le sens, on le trouve encore quand la femme est enceinte, elle veut accoucher. Qu'est-ce qu'on dit? Travail, c'est-à-dire la douleur. Voilà. Alors, le but de l'éducation, ce n'est pas de nous mener, nous préparer pour le marché du travail. Non, le but de l'éducation, c'est de faire de nous des meilleures personnes et de rendre la société meilleure.
Est-ce qu'on y arrive?
Si on ne change pas notre façon de concevoir le travail et le repos, on n'y arrivera pas. Jamais.
Pourquoi?
Ben écoute, pendant mon mandat de vice-recteur, le mot clientèle à l'université était interdit. Mais, c'est-à-dire, dans les interdits, c'est vrai que vous pouvez appeler l'Université du Québec à Chicoutimi, ils vont vous dire qu'entre entre 2012 et 2017, c'est-à-dire mon mandat de 5 ans, le mot clientèle étudiante était interdit dans tous les documents officiels et même dans les réunions. Et souvent, un doyen, il dit clientèle. Pardon. Mais juste après mon mandat, il est revenu installé.
Le mot en C.
Oh, oui. Pourquoi? À un moment donné, il disait, mais le vice-recteur était obsédé par un mot, parce qu'il n'aimait pas ça. Pourquoi il est obsédé par un mot? D'abord, je ne suis pas obsédé par un mot. Deuxième chose, s'il y a un lieu où les mots ont un poids, ben c'est à l'université. Mais c'est plus que ça. C'est que ce qui donne un sens à une démarche ou à une activité, c'est toujours l'objectif qui la dirige ou qui la bloque. Alors, quand je dis que l'étudiant est un client qui paye pour une formation qui le prépare pour le marché du travail, alors moi, en tant que professeur ou en tant qu'université, je suis au service de quoi? Du marché. Eh bien, moi, je n'ai aucune envie d'être au service du marché. En revanche, lorsque je dis que l'étudiant est une personne à la recherche d'un travail capable de l'amener à la vie bonne, alors je suis au service de la société, de la vie bonne et de l'étudiant. Alors, ce n'est pas juste un mot, c'est une façon de... Alors si on ne change pas cette mentalité, ben on n'aura jamais... on ne retrouvera jamais le sens grec du mot « éducation ».
Quand on traverse ces trois livres, à travers ça, il y a plusieurs choses, mais à un moment donné, justement, parce que là, tu me mènes à cet endroit-là, je me demandais si t'en avais compte, là, justement, le mot de production. J'ai l'impression que c'est te lire, c'est un exercice en ce sens très difficile, parce qu'aujourd'hui, on est très utilitariste, c'est-à-dire on fait les choses dans l'idée d'une utilité, alors que ton œuvre, en fait, traverse justement des questions qui sont actuelles, mais inutiles dans le sens... dans le sens que ça ne sert pas aujourd'hui, même si, en fait, tu nous lis. Donc, je me demandais, c'est quoi ton rapport à l'utilité? Puis sinon, est-ce qu'il prend une trop grande place aujourd'hui dans notre société?
Mais c'est certain, on en a déjà parlé, quand j'ai parlé de regarder et de voir, mais c'est un peu ça. Quand j'ai dit qu'il faut traiter les gens comme fin au lieu de les traiter toujours comme moyen, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire, on est obsédé par l'utilité. Il faut que les choses soient utiles. Et pourtant, on ne voit la beauté d'une chose que lorsqu'elle cesse d'être utile. Quand une chose est utile, sa valeur part avec son utilité. En même temps que Jane Austen écrivait des romans, on fabriquait des machines à vapeur. Elles sont où, les machines à vapeur maintenant? Disparues. Pourquoi? Elles ne sont plus utiles. Les romans de Jane Austen sont encore là. Alors, c'est... il faut apprendre, quand je reviens à la même chose, à traiter les choses et les humains comme des fins et pas comme des moyens utiles. C'est-à-dire l'éducation, je ne vais pas à l'école, à l'université pour trouver un travail et pour entrer dans le marché du travail. Ça, c'est important, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est ça la différence entre la formation et l'éducation. La formation nous donne les outils, justement, pour opérer d'une façon convenable à l'intérieur d'un système social, politique. Et c'est très, très bien. Et généralement, la formation, elle finit à l'âge de 26 ans, 20... mais pas l'éducation. Le rôle de l'éducation, ce n'est pas ça. Le rôle de l'éducation, c'est de faire de nous des meilleures personnes et de faire de la société une meilleure société. Et ça, ça n'a pas de limite. Ça n'arrête pas à 25 ou 26 ans ou 23 ans. Il faut continuer.
Donc, l'éducation est pour la démocratie et la formation pour le marché.
Et moi, je ne veux pas de compétition. Je veux que les gens s'éduquent pour leur propre bien, pour être heureux.
Mais tu en parles beaucoup, justement, du bonheur à travers ça. Nous, à travers la télé, moi, c'est la question de la juste place. Comment tu conjugues justice et bonheur? Parce qu'on peut facilement voir comment le bonheur peut justement grandir dans l'injustice et inversement. On peut être très juste et très malheureux.
En fait, OK. Alors, le bonheur. Il y a une... C'est un gros sujet.
Mais tu es capable. Même le micro a décidé de lâcher.
C'est moi qui l'ai cherché. Alors, le bonheur, c'est un gros sujet, mais je vais essayer quand même de résumer. Il y a une phrase très, très, très influente, la première phrase de l'éthique à Nicomaque d'Aristote, qui est le premier livre vraiment consacré à l'éthique. C'est un grand livre. Et cette phrase, c'est quoi? Aristote, il dit, chaque chose, chaque action, chaque démarche, chaque personne vise un certain bien. Donc, le bien, c'est la visée de tout. Ben, il dit une phrase et il la renverse et il sort une définition de génie. Comment il a fait, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que chaque chose, chaque action, chaque personne a un objectif unique qu'elle doit poursuivre pour s'accomplir dans la vie. Vous allez me dire, c'est encore abstrait ce truc-là. Non, non, est-ce qu'on peut être un peu plus concret? OK. Ça veut dire que chaque chose a un seul but. Alors, si je prends, par exemple, un objet que vous avez tous, que tout le monde utilise dans toutes les traditions au monde, comme le couteau. Alors, je parle de ça dans la promesse de Juliette, je crois. Alors, quel est l'objectif du couteau? Alors, quand je pose la question à mes étudiants, la salle, ils disent, tout le monde dit, l'objectif du couteau est de couper. Or, c'est faux. L'objectif du couteau, ce n'est pas de couper, mais de bien couper. Parce qu'on peut couper avec n'importe quoi, même avec nos dents. Et si l'objectif du couteau était de couper, on n'aurait pas différents couteaux pour différentes fonctions. Alors, dans nos cuisines, on a différents couteaux, et chaque couteau a une fonction. Alors, si le but du couteau était de couper, on utiliserait un seul, n'est-ce pas? Mais on peut le faire, hein? C'est-à-dire, quand je vais au restaurant, on me donne au début du pain avec du beurre et un couteau. Alors, je peux prendre ce couteau et l'utiliser pour couper le pain, couper la viande, couper les fruits, couper les légumes. Est-ce qu'il va couper? Certainement. Est-ce qu'il va bien couper? Ah non, ça va être un désastre. Et imaginez une tomate avec ce couteau-là. Alors, on ne l'utilise pas. Maintenant, je vais pousser la logique et vous allez comprendre c'est quoi le bonheur. Quel est l'objectif d'un chanteur ou d'une chanteuse? Est-ce que c'est chanter? C'est bien chanter. Pourquoi? Tout le monde peut chanter, mais est-ce qu'on écoute tout le monde? Mais non, on écoute ceux et celles qui chantent bien. Je vais pousser encore la logique. Quel est l'objectif d'un professeur? Est-ce que c'est enseigner? Mais non, n'importe quel imbécile peut donner des leçons aux autres. Mais on n'apprend pas de n'importe qui, on apprend de ceux qui enseignent bien. Et ainsi de suite. L'objectif de l'étudiant, ce n'est pas d'étudier, mais de bien étudier. L'objectif de l'amoureux, ce n'est pas d'aimer, mais de bien aimer, et ainsi de suite. Mais qu'est-ce que Aristote cherche? Aristote ne s'intéresse pas au couteau. Et... Non, non, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est si chaque chose un objectif unique qu'elle doit poursuivre, quel est l'objectif de l'être humain en général? Quel est cet objectif qu'il doit poursuivre pour s'accomplir et pour réaliser son humanité? Quel est l'objectif de l'être humain? Est-ce que c'est vivre? C'est bien vivre. Le mot grec pour bien vivre, c'est eudaimonia. Et comment on le traduit eudaimonia en français? Bonheur. Ça veut dire que l'objectif de l'être humain, c'est d'être heureux. Maintenant, il y a quand même une différence entre eudaimonia et la vraie traduction, ce n'est pas le bonheur, c'est la vie bonne. Bonheur, ce n'est pas une bonne traduction. Eudaimonia veut dire une vie bonne. Quelle est la différence entre le bonheur dans le sens grec, c'est-à-dire vie bonne, et le bonheur qu'on utilise aujourd'hui? Pour arriver, qu'est-ce qu'on fait maintenant? OK, avant d'arriver à ça. Pour être heureux, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est ça la question qu'on me pose toujours, même à la radio, Marie-Louise Arsenault m'a dit, oui, mais comment faire? Pour être heureux, il faut choisir quelque chose qu'on aime et de faire tout pour le faire bien. Je choisis ce que j'aime et je fais beaucoup d'efforts pour le bien faire. Et lorsque je deviens bon dans quelque chose que je fais parce que je l'aime, si je deviens bon, à la fin, je vais être heureux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, enfin, ça nous explique pourquoi ceux qui partent à la recherche du bonheur ne le trouvent jamais. Les gens qui lisent des livres « Comment être heureux », « Self-growth » et tout ça, ils perdent leur temps et leur argent, malheureusement. Pourquoi? Parce que la meilleure façon de rater le bonheur, c'est justement de le viser. Pourquoi? Et pourquoi les gens qui partent à la recherche du bonheur, ils reviennent sans bredouille? Parce que le bonheur est un effet secondaire. C'est quelque chose que tu trouves, que tu rencontres en cherchant quelque chose d'autre. Cherchant quoi? À être bon dans quelque chose que j'aime faire. J'aime l'enseignement, il faut que je fasse tout pour être bon. Et quand je deviens bon en enseignement, ou en menuiserie, ou n'importe quoi, je vais être heureux. Mais je ne cherche pas le bonheur tout seul, il n'existe pas. Il est associé à quelque chose. Alors pour être heureux, il faut faire quelque chose qu'on aime, prend l'habitude de le faire tout le temps, et de le faire bien. Là, je reviens avec ce background à ta question. Quelqu'un, par exemple, qui rêve d'être un chef de crime organisé, de mafia. C'est ça le modèle, il regarde les films de mafia, il rêve de devenir un chef de mafia. Et il travaille fort là, vraiment là. Et un jour, il devient chef de mafia. C'est-à-dire que pour vraiment être heureux, il faut que je sois juste envers les autres et envers moi-même. Alors, si je suis heureux, mais je ne suis pas juste envers les autres, ce n'est pas du bonheur, ce n'est pas la vie bonne. Ou si je me sacrifie complètement, alors je ne suis pas juste envers moi-même. Alors, je ne peux pas atteindre la vie bonne. C'est ça la différence entre le bonheur dans le sens d'une satisfaction et le bonheur dans le sens de la vie bonne. C'est d'y arriver dans la justice. Voilà.
En tout cas, je ne sais pas si tu es heureux et tu as vécu des moments de bonheur, mais en tout cas, je peux dire que tu as très bien fait de nous enseigner. Merci beaucoup, Mustapha.
Je vous en prie.
Je tiens à remercier Mustapha Fahmy pour ce généreux entretien. Si vous voulez le lire, je vous conseille de lire « La leçon de Rosalinde »,« La promesse de Juliette » et « La beauté de Cléopâtre », tous parus aux éditions de La Peuplade. Je tiens à remercier le Festival des traditions du monde et toute son équipe pour son accueil. Et je tiens aussi à remercier CFRK pour le soutien logistique et technique pour cette émission. On prend congé en janvier et on vous revient le 10 février 2026. Bonne année!